J'ai toujours eu un attrait plus important pour les petits que pour les grands, parce que ce qui me passionne le plus en pédiatrie, c'est à la fois le développement, et c'est donc l'âge auquel la dynamique de développement est la plus rapide, où tout ce qu'ils peuvent faire sur le plan moteur, psychique, etc. se met en place. Et puis c'est l'âge où le rôle ou l'intervention maternelle est également la plus importante, et je trouve que c'est une des spécificités, c'est un des intérêts de la pédiatrie, c'est cette médecine à trois. Et donc, de façon un petit peu conjointe, c'est vers cette tranche d'âge que je me suis orientée. Et puis, c'est vrai que le bébé, c'est quelque chose de mal connu, d'assez fascinant. Et donc, j'ai une attraction, j'allais dire, personnelle aussi pour cette tranche d'âge. Et voilà, donc j'ai appris à les connaître et à souhaiter les comprendre, surtout parce que c'était encore très, très flou dans l'esprit de tout le monde. C'est un terme qui n'existe pas dans le dictionnaire, parce que je l'ai cherché quand j'ai... Les oralité. Vous cherchez oralité dans le Robert, vous ne trouvez pas. C'est un terme qui n'existe pas. Donc c'est intéressant de voir qu'un mot a été saisi par une communauté, plus que médicale maintenant, n'existe pas dans le Robert. Donc j'ai trouvé que ça laisse à ce mot, j'allais dire, tout son flou et sa poésie. Hein. Donc en fait, quand on va vraiment chercher, c'est un terme psychanalytique. Hein. C'est un terme qui est dans le dictionnaire des psychanalystes, qui n'est pas le Robert, parce que loin de là. Mais je trouve qu'il a correspondu à le caractère très complet et global de cette thématique. Et j'aime bien son flou. Donc moi, j'y mets tout ce qui, autour de la bouche du bébé, a trait à la fois à ses fonctions d'alimentation, de communication, de gazouillis, donc de langage, de communication au sens affectif, tout ce qui est à la fois les fonctions somatiques et symboliques et affectives et psychogènes de l'enfant. Or, on sait que c'est absolument fondamental pour la construction psychique de l'enfant et de toute la vie. Je veux dire, les fumeurs de cigarettes, les tireurs de doigts, et la bouche reste un endroit très magique. Donc voilà, donc pour un pédiatre qui s'intéresse au bébé, moi j'aime beaucoup le mélange pédiatrique et pédopsychiatrique. Donc c'est un terme qui m'a convenu, que j'ai employé et dont tout le monde s'est saisi. Donc voilà, maintenant je ne sais pas très bien ce que les autres y mettent, mais probablement quelque chose de semblable. Qu'on a mis le doigt sur un problème qui existait, que les gens sentaient sans comprendre, sans savoir. Il y a une énorme demande, il y avait un énorme besoin, je crois. C'est intéressant que vous posiez la question du risque, hein, que l'oralité devienne un centrage uniquement sur la bouche, mais pas du tout dans mon esprit. Il suffit de nous entendre à une des quelconques réunions et prises en charge pour être très au courant du fait que pour nous, c'est une fonction complètement corporelle globale et qu'elle s'intègre à l'ensemble de toutes les fonctions motrices, sensorielles, affectives. Donc on ne coupe pas du tout le bébé en rondelles. Je suis une généraliste, je souhaite vraiment le rester. Et donc... peut-être qu'il y a un risque en employant ce terme, mais en tout cas pas du tout dans notre esprit. Et la preuve, c'est que vous avez des kinés, des chirurgiens, des infirmières, très peu de stomatos, très peu d'orthophonistes purs. Donc non. Alors le groupe Oralité de Necker, en fait, n'est institutionnalisé que depuis 2 ou 3 ans. Mais il est, j'allais dire, le fruit, et il s'est rendu quasiment nécessaire après un parcours qui est beaucoup plus long sur ce sujet, puisque... À la fois sur le plan médical personnel, je suis venue à la fois à cette thématique par un côté très organique, c'est-à-dire que j'ai fait de la néonatologie, donc je connaissais ce que c'était que la pathologie du nouveau-né. Et puis, depuis très très longtemps, je collabore avec Gérard Couly et avec Yves Manac sur les pathologies malformatives de la face, et donc des situations qui empêchent de façon primaire et totalement intrinsèque et constitutionnelle les enfants de s'alimenter dès la naissance. Et donc c'est vrai que la prise en charge de ces enfants, qui initialement était tout à fait somatique, organique, presque chirurgicale, trop chirurgicale d'ailleurs au début, nous a fait réfléchir sur à la fois le développement de l'oralité, c'est-à-dire que comment ces bébés privés de succion allaient progressivement apprendre entre guillemets à manger, qui est quelque chose qui se fait totalement naturellement chez les autres. Donc ça a été un petit peu un modèle d'une pathologie où il manque une partie et comment la suivante peut se mettre en place tout doucement. Donc ça, ça a été un des premiers attraits. Le deuxième, c'était la constatation que ces enfants qui ont une pathologie très pure, que sont les séquences de Pierre-Robin isolées, donc qui ont un déficit très sévère de la succion, finalement, au bout de quelques années, s'en sortent assez bien, y compris sur le plan, enfin non seulement sur le plan alimentaire, mais aussi sur le plan affectif, oral, langage, même si au départ il y a un petit peu de difficulté, quand on les prend à 6 ans, 7 ans, 8 ans, il y a peu de séquelles. Enfin, j'espère que ce n'est pas de l'optimisme béat, mais en tout cas on a le sentiment que c'est une étape qui est à la fois fondamentale d'un point de vue psychanalytique et tout ce qu'on peut en connaître et en savoir sur le plan théorique, et ce n'était pas mon expérience finalement. On pouvait chanter, alors chanter, pas chanter complètement, avec des précautions bien sûr cette étape, et obtenir un développement psycho-affectif harmonieux. Donc ça a été une deuxième interrogation. Comment ça se met en place? Qu'est-ce que c'est que le développement normal de la réalité finalement? Comment est-ce que le cortex, comment est-ce que l'affect, comment est-ce que l'environnement va pouvoir progressivement amener un enfant à cette fonction? Et puis comment est-ce qu'il peut se construire, comment est-ce que ce couple mère-bébé peut se construire avec cette chose si fondamentale qui n'existe pas? Donc ça c'est l'observation des enfants Robin. Et puis après ça a été plus, le fruit de la demande, c'est-à-dire que m'intéressant aux troubles de succion dans le cadre du Robin, on a élargi à d'autres syndromes malformatifs plus graves, les charges, les nounanes sévères, enfin, et les enfants pour lesquels il n'y avait pas d'identification forcément, des enfants qui avaient des pathologies neurologiques, etc. Et là, ça a été à nouveau une observation très intéressante sur le plan de leur fonctionnement, c'est-à-dire que non seulement il leur manquait cette succion, mais il pouvait leur manquer d'autres fonctions. Olfactive pour les charges, développementale pour les grands prémats abîmés, etc. Et là encore, c'est souvent en médecine par le manque que la physiologie peut être mise en évidence, et ça a été très riche d'apprentissage pour nous, et j'espère aussi pour les parents, parce que connaissant bien les fonctionnements, on pouvait mieux analyser les difficultés. Et puis, j'allais dire, le champ s'est élargi aux enfants pas malades, mais qui avaient subi des stress, qui avaient entravé leur oralité pour des raisons qui n'étaient là ni neurologiques, ni malformatives, ni tronc cérébral, ni rien du tout, qui étaient la réanimation, les chirurgies, etc. Et je me suis aperçue que, à ma consultation, venaient de plus en plus d'enfants qui avaient finalement des troubles du comportement alimentaire parce qu'ils avaient vicié ou mal mis en place toutes ces fonctions pour des raisons presque essentiellement iatrogènes. Et donc, c'est un petit peu cet élargissement du champ qui m'a fait entrevoir, enfin, et percevoir et travailler sur cette thématique, j'allais dire du plus psychogène au plus organique. Et il y a vraiment tout l'éventail possible, jusqu'à l'anorexie réactionnelle banale du deuxième trimestre qui peut quelquefois arriver à des situations conflictuelles dans les familles. Donc en fait, je me suis intéressée à ce sujet un peu sur tout son champ. Et avec toujours la grande précaution de ne pas justement le qualifier de soit organique, soit psychogène, mais il y a toujours, toujours les deux. Même dans les anorexies banales, les petits blocages du deuxième semestre, on retrouve toujours un petit substrat, etc. Et puis, aussi dans ce champ-là, j'ai mis en évidence un certain nombre de troubles de succion très précoces néonatales, qui jusque-là étaient étiquetés psychologiques ou anorexie néonatale, parce que finalement les médecins trouvaient rien. Quand ils avaient traité le reflux, les coliques et l'allergie au lait, on était un petit peu dans le mur, et à ce moment-là on envoyait la mère chez le psy. J'en ai vu beaucoup arriver comme ça, et ça a été l'occasion de faire le lien théorique entre ce que j'avais appris du Robin et ses bébés. Or il existe des enfants qui ont de réels troubles de motricité oro-œsophagienne, c'est ce qu'on a appelé la dyskinésie oro-œsophagienne précoce. Il y a d'autres gens qui ont perçu ça, d'autres pédiatres qui ont perçu ça et qui l'ont appelé autrement. Et ça m'a semblé très important, une fois que tout ce champ a été mis sur la table, d'avoir une extrêmement bonne analyse de la situation. Parce que c'est trop simple de dire c'est parce qu'il y a une fente, ou c'est parce que la maman est comme ci, ou parce que le lien est comme ça. Et donc, je me suis mise à travailler beaucoup dans une finesse, dans une subtilité d'analyse des situations. Et cette subtilité, cette finesse a engendré la participation d'autres personnes que des pédiatres, bien sûr, puisque initialement il y avait Gérard Couly qui est chirurgien et qui est embryologiste, donc des notions très très pures et dures qu'on a tirées de la souris, enfin du laboratoire. Et puis peu à peu sont intervenus de façon normale les psychologues, les psychiatres, les orthophonistes, les kinés, et puis les personnels soignants, parce que dans la série d'enfants qui ont des troubles du comportement alimentaire acquis ou des anorexies post-traumatiques, comme je les appelle, ça a interpellé énormément tout le personnel soignant. Et du coup, on s'est aperçu qu'il y avait là une mise en évidence d'un sujet qui était mal compris, mal identifié, mais qui finalement préoccupait beaucoup de monde. Et ça m'a semblé important de le cadrer, de l'authentifier comme une vraie spécialité, on peut dire, hein, qui est à cheval sur, mais qui n'est pas que purement ni neurologique, ni gastro-entérologique, ni psychiatrique, ni pédiatrique, qui est un petit peu tout ça, et qui était un petit peu laissé pour compte par les différents spécialistes, parce que justement c'était un peu en marge de chacune de leurs spécialités, et ça m'a semblé utile de l'identifier en tant que tel. Donc c'est pour ça que bon, j'ai avancé, et que j'ai un peu, enfin inventé c'est un peu un grand terme et très prétentieux, mais disons... identifier et isoler cette problématique comme une spécificité. Le groupe, donc, il est né de la collaboration interne, hein, qui fait que très souvent on se réunissait pour discuter d'un cas, d'un autre, et peu à peu j'ai senti qu'il y avait plus de monde que ça intéressait. La sensation d'un besoin de trouver les professionnels locaux, ah oui, et puis surtout, la besoin de transmettre les choses de façon claire un peu à l'extérieur. Parce que c'est vrai qu'on voyait cette thématique émergente des orthophonistes de ville qui se retrouvaient avec des prescriptions, rééducation de l'oralité ou rééducation de la déglutition. On arrivait à un besoin, donc une réalité, mais des gens pas formés et qui du coup étaient soumis à des demandes en rééducation qui devaient beaucoup les surprendre, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Alors il y a des gens qui se sont étiquetés rééducateurs de la déglutition à droite, à gauche, au milieu, et ça me semblait pas bien. Donc je me suis dit que de coordonner tous ces gens, de les rassembler, de faire un lieu très ouvert, à la fois dans Necker et en extra-Necker, comme on le fait aujourd'hui, permettait à la fois d'éviter les électrons libres délirants, parce que il peut y en avoir dans ce genre de thématique, et puis de mettre un petit peu autour de la table toutes les compétences de chacun, et de pouvoir, j'espère à terme, puisque c'est l'objectif, transmettre des idées plus claires à l'ensemble des professionnels, chacun ayant son regard, mais disons, clarifier les choses pour que les enfants soient d'une part pris en charge mieux quand ils sont en rééducation, et puis surtout essayer de prévenir ces troubles, puisque dans ce qui concerne l'anorexie post-traumatique, c'est clairement en réanimation, en chirurgie, qu'il faut initier les choses. Et donc là, il y a un travail de prévention extrêmement important qu'on va mener grâce à ce livret, à la réflexion, etc., qui va être distribué, parce que il faut prendre les choses à la base. C'est comme la douleur il y a quelques années. Voilà, donc beaucoup d'objectifs et de sens à ce groupe qui vit et pour lequel il me semble qu'il y a un avenir. Alors, c'est une très intéressante question de savoir est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont des troubles de l'oralité dans mon service ? Oui, par définition, oui, puisqu'on les envoie pour ça. Donc, il y a un biais de recrutement absolument majeur. Et quand tu me demandes qu'est-ce qu'on fait, ben justement, on commence par essayer de comprendre. C'est une phase... on se précipite pas dessus. On fait un travail d'analyse en consultation, déjà d'anamnèse, d'histoire à la fois médicale, orale et de vécu, à la fois de l'enfant et de sa famille. Et j'essaye, et c'est quelque chose qui a un peu surpris les professionnels qui font cette consultation pluridisciplinaire, qui souvent est préalable à une hospitalisation, quand les enfants sont... à froid, hein. Je ne parle pas de ceux qui viennent directement de réanimation, mais enfin ceux qui viennent pour cette prise en charge-là, c'est que j'essaie de retracer l'histoire en me mettant à la place du bébé. Qu'est-ce qu'il a subi? Qu'est-ce qu'il a vécu? Qu'est-ce qu'il a ressenti? Qu'est-ce qu'il a compris? Tout ça. Et c'est souvent, ça prend énormément de temps, parce que c'est un regard très particulier. Souvent, les mères arrivent en disant « il a été ventilé ». 3 semaines, il a une reploc 3 mois, elles sortent de parcours très lourds. Attendez, c'est quoi une reploc? Il était dans son lit, il était sur le dos, il était sur le ventre, il avait un tuyau ouf dans la bouche, ça, il tétait quoi? Il faisait quoi? Est-ce qu'il avait les mains attachées? J'essaie de retracer l'histoire en me mettant dans le corps du bébé. Parce que je crois qu'on sous-estime de façon massive leur vécu personnel dans l'interprétation des choses. Donc, c'est d'abord un travail d'analyse, hein, anamnestique, d'histoire, et ensuite d'observation de ce qu'ils ont. Je ne peux pas te répondre, on ne va pas avoir la même prise en charge avec un robin, un charge, un enfant qui a une diarrhée grave, qui a un cathéter central, un enfant qui a été opéré de l'œsophage, un enfant... Donc, après, ça dépend complètement de ses capacités. Donc, un, l'anamnèse. Deux, quel est le trouble et où se situe-t-il dans cette dynamique de développement? Parce que, est-ce que c'est un enfant qui a su téter, qui savait téter, qu'on a empêché de téter? Est-ce que c'est un enfant qui n'a jamais su téter? Est-ce que c'est un enfant qui a tété et qui a eu une brûlure de l'œsophage à 5 mois? Donc, à quel moment, quel est l'événement, congénital ou acquis, et à quel moment, dans cette dynamique très progressive de la période très anténatale à la période quasiment 12 ans d'après les stomatomes, enfin pour nous, mettons 3 ans, hein, entre moins 6 mois et plus 3 ans, il y a des étapes développementales qui se passent chaque jour pour dans ce. Et donc j'essaie de resituer l'enfant dans cette dynamique. Hein. Quel est le trouble? Quand, par rapport à ça, qu'est-ce qu'il a su faire ou pas su faire et qu'est-ce qu'il va pouvoir faire compte tenu de ses capacités psychomotrices et de son développement normal? Et quel est son cortex? Et l'attitude ne sera pas du tout la même avec un enfant qui a une encéphalopathie grave et un enfant qui a un comportement normal. Donc... c'est pour ça que je réponds pas à la question, hein, parce que le travail d'analyse, il est absolument fondamental. Alors après, ça dépend. Après, ça dépend. Il faut peut-être que la question soit plus ciblée sur un type d'enfant. Si c'est un enfant qui ne sait pas téter ou ne peut pas téter ou qui a une exclusion alimentaire obligatoire, là, le travail va consister à être simplement préventif des troubles ultérieurs. C'est-à-dire qu'on va faire un travail de préservation de l'oralité. Donc, réfléchir à mettre du canadou sur une tétine, à fragmenter les repas pour pas que le continu soit complètement délétère pour la régulation de l'appétit, les mettre en position dans les bras des mères au moment de la nutrition entérale pour que ça ressemble à un repas, éviter les goûts infects des laits, même s'ils sont nécessaires sur le plan entéral, pourquoi pas 3 gouttes de lait normal. Réfléchir à tout ce qui, dans nos gestes, est délétère pour la suite. Donc ça, ça veut dire, c'est les enfants qui ne peuvent rien faire. Et là, on essaye simplement de ne pas être négatif, de les remettre à un niveau de positif. Éviter les nausées s'ils en ont, opérer les reflux s'ils sont épouvantables, mettre une gastrostomie si les sondes sont là depuis très longtemps. Enfin, remettre la situation au moins de neutralité, parce qu'il y a énormément de négatifs qui empêchent la suite. Une fois que la situation est neutre, là, on voit en fonction des capacités de l'enfant, capacité organique et capacité psychomotrice. Si un enfant fait des fausses routes, c'est pas la peine d'aller donner à manger. On va la stresser. Et donc, il y a une part de la déglutition qui ne se rééduque pas. Quand un larynx reste ouvert, moi, je peux dire à mon larynx de me fermer, oui, éventuellement, quand je décide de chanter. Mais c'est quand même un organe qui a une partie de médiation qui est non corticale. Et donc, il y a des choses qu'on ne peut pas rééduquer. Il faut savoir le dire. Et à ce moment-là, il faut savoir pallier autrement. Donc, dans ce qu'on peut faire, il faut déjà savoir... Est-ce qu'il y a ou pas possibilité d'alimenter l'enfant, hein? Et si on ne peut pas, on ne peut pas. Mais à ce moment-là, on le dit gentiment, clairement, on n'essaye pas, on ne force pas, on ne traumatise pas tout le monde dans une voie qui est un échec, et on fait autre chose pour attendre que l'enfant soit capable de... S'il est capable de, ce qui est souvent le cas d'ailleurs, mais qu'il est complètement stressé parce qu'il est dans une attitude de refus, parce qu'il n'a pas développé du tout sa praxie orale, à ce moment-là, ça va être un travail très de prise en charge à la fois psychomotrice et psychologique globale. Donc la bouche est un endroit qui est d'une extrême sensibilité sur le plan des capacités de discrimination. Si je vous mets une paille d'or à la framboise de chez lui dans la bouche, vous avez les yeux fermés, vous savez que je vous ai mis une paille d'or de chez lui dans la bouche. Il y a le goût, il y a la consistance. Donc il y a un nombre de récepteurs de discrimination possible en intrabucal qui sont fantastiques, qu'on utilise tous les jours sans s'en rendre compte et qui font le plaisir de l'alimentation. Pour ces bébés, cet aspect très sensible s'est transformé en sensibilité négative. Donc toutes les stimulations sont extrêmement agressives. Donc on essaie de repartir aux stimulations les plus douces possibles, les moins agressives possibles, tout doucement en franchissant les étapes possibles pour eux. Donc, d'abord du pas alimentaire, puisque quand c'est trop agressif, c'est même pas la peine, on en voit arriver avec des cuillères comme ça, ils étouffent, ils hurlent, c'est pas la peine. On revient beaucoup plus en amont. Est-ce qu'on peut les toucher? Est-ce qu'on peut leur faire sentir des choses? Est-ce qu'on peut leur faire faire des grimaces? Est-ce qu'on peut les faire bouger? Est-ce qu'on peut gazouiller, parler, utiliser la bouche dans ces fonctions qui ne sont pas celles de la déglutition? Parce que déglutir, c'est extrêmement anxiogène, parce qu'il y a un moment où, de façon volontaire, il faut propulser vers l'arrière dans une espèce de trou béant. Les psys verront de quoi je veux parler. Et donc ça, l'enfant se retient de ça. Donc, il faut arriver à progressivement détendre toute cette zone pour que la déglutition naturelle qu'il fait avec la salive, qu'il fait avec de l'eau, il prenne conscience qu'il peut le faire. Donc, on démarre par tout ce qui n'est pas alimentaire et souvent de l'eau quand il n'y a pas de trouble de déglutition vraie. Parce que l'eau, ça n'a pas de goût, pas d'odeur, pas de saveur, pas de consistance. Ça ressemble à la salive. Donc, avec de l'eau, l'enfant prend conscience corporellement qu'il peut déglutir. Or, comme dans toutes les étapes développementales du bébé, s'il ne le vit pas, s'il ne le fait pas, il ne peut pas s'imaginer quelque part. Ce n'est pas un jack qui va se brancher. Il faut qu'il le vive corporellement. Donc, boire de l'eau le plus possible. Donc, on concentre les nutritions entérales pour qu'ils aient soif. La soif étant un sentiment qu'ils acquièrent beaucoup plus vite que la faim. Les enfants qui n'ont absolument jamais faim. Par contre, la soif, oui. N'importe quel enfant qui a une déglutition, qui est en une dysoralité totale, vous le déshydratez. Voilà, c'est très... Enfin, c'est pas artificiellement fait par les gastro-entérites, mais toutes les mamans qui ont eu des enfants qui ont fait des gastro-entérites graves vous disent « il a bu l'eau du bain ». Et puis, le jour où il a été réhydraté, terminé. Donc, la soif est une sensation beaucoup plus forte que la faim. Donc, on s'en sert pas mal pour essayer de rééduquer ses enfants. Alors, en hospitalisation, on ne fait pas tout ça, on n'a pas le temps. Hein. Donc, les enfants sont hospitalisés quand ce sont des gros troubles à domicile, après une consultation pluridisciplinaire, avec un projet d'observation et de prise en charge, de démarrage de prise en charge. Parce qu'il y en a pour des mois, hein. Ce qui s'est constitué en 3 ans ne va pas se résoudre en 3 semaines. Donc, ce sont des hospitalisations en général de 2 ou 3 semaines, avec des contrats assez clairs qui sont faits hebdomadairement. Tous les samedis, je revois les deux parents ensemble, c'est mieux le samedi parce qu'il est papa, pour avoir un contrat. C'est extrêmement important d'avoir une alliance thérapeutique. C'est extrêmement culpabilisant pour les mères, toutes ces pathologies. Et donc, on essaye au maximum d'essayer de les faire participer, de les déculpabiliser. Et c'est là où vous me posiez la question du rôle du psy. Le rôle, il est extrêmement important pour beaucoup de choses, hein, pour l'institutionnel, pour nous, pour le bébé, mais surtout pour ses parents, évidemment. Hein. Et donc, en général, le premier contrat est un contrat d'analyse, observation, explication, et ensuite, éventuellement, un contrat thérapeutique avec un relais qui est pris par le personnel quand les mamans sont trop stressées pour nourrir les enfants. Ça arrive, mais j'aime pas énormément, enfin j'essaie d'éviter au maximum les exclusions complètes. On le fait vraiment quand c'est des pathologies de lien très sévères, mais sinon non. Et c'est une hospitalisation à ce moment-là qui est plus une hospitalisation au sens traditionnel du terme. On fait aucun examen, il n'y a pas de piqûre, il n'y a rien. L'enfant est à la crèche, hein, c'est une crèche 24 heures sur 24. Et on essaie de s'adapter à sa vie le mieux possible, à le faire manger avec les autres s'il a l'âge, à redonner un sens au repas pendant l'heure du repas s'il est en nutrition entérale, et puis dans les intervalles, psychomotricité, massage, kiné, séance des parents avec le psy de façon un peu informelle au départ, et puis après, en fonction de comment les parents accrochent, il peut y avoir des thérapies qui sont mises en place, ou après, avec un suivi soit avec la psychologue du service, soit plutôt un relais qui est pris par l'extérieur, parce que on débrouille un problème, on met sur des voies de prise en charge et ensuite, bien sûr, on passe le relais parce que c'est pas notre métier, c'est un service d'aiguë quand même. Pour moi, le rôle de la psychologue dans le service, il est absolument omniprésent. C'est-à-dire que je pense que dans cette thématique, il ne faut pas aller chercher le psy au moment où on va dire « Ah bah oui, madame, pour vous, paf, on va vous coller le psy comme on vous colle un cachet d'aspirine. » Donc, Béatrice, elle est là tout le temps. En plus, c'est quelqu'un de discret, hein, qui ne dit pas, voilà, je suis la psy, je vais voir les parents parce qu'il y a un problème. Non, elle est là tout le temps. Et donc, ça permet que ça fasse absolument partie du tissu d'outils qui sont a priori là et pas a posteriori. Et donc, ça passe beaucoup mieux. Elle vient, elle discute. On parle du bébé, on parle du problème. Et puis, peu à peu, après, à elle de voir comment est-ce qu'elle sent les choses. Et elle travaille en binôme avec la psychomotricienne, avec Catherine Beignet, et elles font un travail tout à fait remarquable, je crois, toutes les deux ensemble, avec Béatrice ayant un rôle plus d'observateur, et Catherine qui est plus physiquement au tapis avec le bébé, parce que c'est comme ça qu'elle perçoit, elle est psychomotricienne. Mais dans les échanges qui passent par le bébé, la maman peut à ce moment-là exprimer des choses, des angoisses, des difficultés qui sont reprises par la psychologue, mais qui doivent s'exprimer à l'occasion et à cause du bébé et par le bébé. Je veux dire, les mamans, dans ce cas-là, elles ne supportent pas qu'on leur dise « Alors madame, votre grand-mère, c'était comment votre naissance ? C'est insupportable, parce que ça rajoute des difficultés de là où elle a déjà. » Mais par contre, de parler de l'enfant, de comment on le sent, de pourquoi est-ce qu'on n'arrive plus à le prendre, les mères perdent totalement leurs repères. Donc on essaie de leur redonner des repères, et à cette occasion, de soulever leurs angoisses et d'aller plus loin dans un champ inconscient à ce moment-là, qui peut se faire en individuel avec la psychologue si elle le décide. Donc c'est assez souple.